France Inter, le 18-20.
Il est des débats qui ne se dépassionnent jamais, déclenchent les mêmes foudres à chaque fois qu'ils ressurgissent, et ils ressurgissent toujours. Il est des débats que l'on ne parvient jamais à apaiser, faute de le réconcilier entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Un euro dans la machine et hop, c'est reparti. L'euro dans la machine, ce week-end, c'est la faculté de Lille qui décide de ne plus enseigner l'homéopathie. Énième épisode depuis la tribune de médecins dans le Figaro, sur laquelle ici même, au téléphone sonne, nous nous sommes cassés les dents l'an dernier. Alors la question du jour n'est pas tant d'être pour ou contre l'homéopathie, parce qu'on n'en sortira jamais. L'idée, c'est plutôt que vous veniez nous raconter pourquoi vous préférez avoir recours à l'homéopathie, mais aussi à toutes sortes de médecines dites alternatives. Vous nous direz quel terme vous préférez. Est-ce qu'il y a un problème avec la médecine traditionnelle dès lors que l'on soigne des tracas du quotidien, qu'on ne parle pas de cancer, d'ulcère, qu'on ne cherche pas à nous enlever l'appendicite par les plantes? Mais pourquoi une médecine plus douce, alternative, parallèle, comme vous voulez, le terme sera le vôtre. Donc pourquoi a-t-elle un succès croissant et certain? D'où vient ce choix personnel qui parle aussi de médicaments que l'on nous n'impose pas? Toute médecine doit-elle être guérissante? Peut-elle être guérissante? Quel problème y a-t-il à passer par l'esprit pour soigner le corps? L'hypnose, après tout, la méditation, dans certaines thérapies, ça existe également. Qu'est-ce que la science est finalement prête à accepter? Ça se passe comme tous les soirs au 01 45 24 7000 et c'est à vous de jouer.
Fabienne Saint-Pès. Le téléphone sonne.
Bonsoir Martine, c'est vous la première et soyez la bienvenue.
Eh bien, je vous remercie. Bonsoir à tous sur le plateau. Moi, je voulais à la fois témoigner et poser des questions. Témoigner parce que je suis d'une colère pas possible et sous une forme d'incompréhension identique. Voilà, j'ai 68 ans, je souffre de dégénérescence osseuse, donc j'ai des douleurs chroniques depuis des dizaines d'années. Je ne peux pas me prendre des médicaments dits traditionnels parce que j'ai des gros problèmes à l'estomac. Donc, je me suis réfugiée vers l'acupuncture et ça m'aide énormément. Alors, ce que j'ai des douleurs, il n'y a que l'acupuncture qui peut me calmer. J'en ai parlé aux spécialistes qui me suivent, bien sûr, à mon médecin traitant. Tous sont d'accord pour mon choix, ils m'approuvent. Donc moi, je ne comprends pas ces médecins de tout poil, excusez-moi le terme, qui pointent du doigt ces médecines alternatives. Je voulais simplement leur demander s'ils avaient vraiment souffert un jour dans leur vie. Et voilà, en quoi ça les dérange que mon choix, le choix de nombreux patients, soit celui-là. Alors effectivement, c'est vrai que l'acupuncture ou d'autres médecines dites douces ne font pas consommer de médicaments. Donc, y a-t-il aussi une influence des lobbies? Parce qu'on en parle beaucoup maintenant autour de nos représentants, députés ou gouvernements. Enfin, voilà, moi, je suis très en colère et en fait, ma conclusion, c'est de dire laissez-nous tranquilles et laissez-nous choisir la méthode qui nous soulage.
Eh bien, écoutez, comme ça, au moins, c'est clair. Merci, Martine, pour cette entrée en matière. Pour répondre à toutes vos questions, pour dialoguer avec vous ce soir, Bruno Falissard est là. Bonsoir, monsieur Falissard.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de santé publique, membre de l'Académie de médecine. Vous êtes aussi psychiatre. Vous dirigez une équipe de chercheurs à la Maison de Solène et vous avez travaillé sur les médecines douces et parallèles. Et bonsoir Yannick Schmitt.
Bonsoir.
En direct à Strasbourg, on remercie nos amis de France Bleu au passage. Vous êtes médecin généraliste, président du réseau Réagir, groupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants. Bruno Falissard, tiens, je commence avec vous et l'essentiel de la question de Martine, c'est, pardon, je vais le dire comme ça, foutez-nous la paix, quoi. Si moi l'acupuncture me fait du bien, ne cherchez pas à m'expliquer, au fond, que quelque chose d'autre, de plus scientifique, me ferait plus de bien.
Bien sûr. C'est un argument complètement recevable, mais il est exprimé par la moitié des médecins. Mm-hmm. Vous avez des médecins qui considèrent que seul le résultat compte. Et que si le patient va bien avec un soin donné, quel que soit ce soin, eh bien, le patient a raison. Et puis vous avez des médecins qui disent, attention, notre médecine occidentale, souvenez-vous, il y a 200, 300 ans, comment soigner l'infarctus du myocarde, le cancer du sein, etc., c'était une catastrophe. Grâce à la médecine scientifique, nous avons fait des progrès considérables. Si on commence à attaquer la médecine scientifique, on met la main dans un engrenage qui pourrait un jour aboutir sur des gourous et la perte de tout ce qu'on a gagné. Et donc vous avez une tension entre deux points de vue éthiques. Une éthique sur les conséquences, une éthique sur les principes du soin. Et c'est parce que c'est une question d'éthique qu'il y a tellement d'émotions et tellement de conflits entre les patients, les médecins et entre les médecins eux-mêmes.
Mais au-delà de l'éthique, on parle de morale parfois. Oui. On fait la morale étant qu'un un médicament qui ne soigne pas ne devrait même pas avoir le droit de porter ce nom, en fait. Cela dit, on ne parle pas de médicaments quand on parle d'acupuncture, hein, monsieur Falissard, quand on y songe.
Oui, alors vous avez, il est traditionnel de séparer les soins médicamenteux des soins non médicamenteux, en grande partie pour des raisons économiques, figurez-vous. C'est que les soins médicamenteux, c'est industriel, et que du coup, il y a des firmes derrière qui peuvent gagner beaucoup d'argent avec, et donc ils peuvent investir pour montrer que ça marche ou que ça marche pas. Mais avec les soins non médicamenteux, on n'a pas ça, et donc c'est plus difficile à évaluer. C'est pour ça que les questions se posent pas de la même façon.
Yannick Schmitt, vous qui êtes médecin généraliste, quand vous avez en face de vous une Martine qui vous dit, moi, il y a que l'acupuncture qui arrive à me soigner, parce que les médicaments dits traditionnels, en fait, je ne les supporte pas. Qu'est-ce que vous répondez à Martine ? Est-ce que vous dites, bah, tant mieux, ou est-ce qu'on essaye autre chose ?
Ben non, on est plutôt content que la personne soit soulagée. Maintenant, je pense que la responsabilité du médecin, c'est quand même de vérifier que les soins qui sont
prodigués... Que rien d'autre ne marche.
Voilà, et que les soins qui sont prodigués soient les meilleurs possibles et sans effet indésirable possible. Là, en l'occurrence, peut-être effectivement, il vaut mieux aller voir son acupuncteur que de prendre des kilos d'anti-inflammatoires qui vont derrière détruire le rein.
Bon. Mais est-ce que vous avez besoin, Monsieur Schmitt, est-ce que vous faites partie de ces médecins ? On posera la question à chaque médecin qui nous appelle, peut-être à Bruno Falissard aussi. Est-ce que la preuve... pour vous, la preuve scientifique que ça marche est quelque chose de fondamental, en fait, dans votre manière d'aborder, y compris les patients que vous avez en face de vous.
Le problème de la médecine, c'est d'essayer d'être reproductible dans les prises en charge des patients. Et on n'a rien trouvé de mieux quand même pour pouvoir reproduire des prises en charge que de démontrer qu'elles soient efficaces. Mmh. Sinon, chacun fait sa sauce de son côté et c'est là où on arrive à trouver des prises en charge complètement délirantes. Donc il y a un moment, la méthode scientifique, elle a prouvé son efficacité. C'est ce qui fonde aujourd'hui la formation des médecins en France. Je crois que c'est difficile de revenir dessus. Et d'ailleurs, j'ai entendu aucun médecin, même homéopathe, revenir sur ce problème. La question qui se pose, c'est effectivement, est-ce qu'on laisse une part de doute dans la prise en charge des patients ? Ça, en médecine générale, on a l'habitude, puisque à l'issue d'une consultation, il y a plus de 70% des patients qui sortent sans diagnostic. Donc l'incertitude, on sait gérer. Mais par contre, en termes de prise en charge, en plus de l'incertitude, il y a quand même la sécurité du patient. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et je rajouterai une dimension qui a été évoquée rapidement. Il y a aussi la dimension pouvoir public, de savoir si telle ou telle technique qui peut s'apparenter à des soins doit être remboursée ou ne doit pas être remboursée. Puisque là, c'est vraiment le pouvoir public qui doit décider.
La part de doute, Bruno Falissard, c'est important dans votre pratique. Parce qu'on a un peu l'impression finalement que quand on prescrit un médicament de médecine traditionnelle, réellement un vrai médicament, si je puis dire, à un patient, il attend de ce médicament qu'il le soigne tout de suite. On n'attend pas forcément la même chose, on n'a pas la même approche dès lors qu'on est vers une médecine différente, on va dire.
Eh bien, on a tort. On a tort, c'est que d'abord, un peu d'humilité chez tout le monde, chez les médecins, et puis quand on est patient aussi. La science aujourd'hui n'explique qu'une partie congrue de ce qui se passe quand on est malade. Alors que la science a fait des progrès considérables, aujourd'hui la biologie explique des trucs complètement vertigineux, mais on n'explique pas du tout pourquoi un patient qui a une maladie grave se met tout d'un coup à arrêter de prendre ses traitements, alors que c'est un véritable problème. Et donc oui, la science a fait progresser la médecine, mais la science a des zones d'ombre, et certains patients résistent alors qu'ils devraient avoir des pathologies curables, et donc ben, certains soins peuvent marcher dans ces cas-là, et il faut accepter que ces soins soient acceptables.
Bonsoir Serge.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu sur Inter, Serge, on vous écoute.
Merci de prendre mon appel, et puis c'est vraiment un chapeau pour vos émissions, qui sont toutes super intéressantes.
Merci Serge, allez-y.
Oui, alors moi, pour moi, ce que j'ai dit tout à l'heure au standard, c'est que je vois pas pourquoi on oppose ces deux médecines. Alors déjà, pour moi, ce n'est pas des médecines alternatives, ce sont des médecines préventives, alors que la médecine allopathique est une médecine qui est là pour guérir lorsque la maladie est là. Alors, je pense que les deux peuvent très très bien marcher. Il est évident que lorsqu'on a une maladie importante, on va se diriger vers la médecine allopathique, qui va... nous donner les médicaments appropriés pour soigner ces maladies. Mais si on peut les éviter, ces maladies, en utilisant ces médecines préventives qui vont nous travailler, disons, sur notre corps, sur notre état même, pour ne pas avoir ces maladies. Je comprends pas de... ce que je comprends, c'est que effectivement, si on n'est pas malade, les laboratoires, ils mangeront plus, ça c'est évident. Mais à part ça, je ne vois pas très bien le but d'opposer les maladies, surtout que bon, les trois quarts des médecins, qu'ils soient acupuncteurs, qu'ils soient homéopathes, sont des médecins aussi. Je vois pas pourquoi ils auraient plus tort que les autres.
Merci pour ces remarques, Serge. Et on va tâcher de répondre à vos questions. Bruno Falissard, quelque chose qui m'intéresse dans ce que vient de dire Serge, qui dit l'homéopathie, par exemple, c'est plus préventif pendant que les médecines conventionnelles soignent. Est-ce que ça fait partie des fantasmes qu'on peut avoir sur l'homéopathie qui serait préventive?
Oui, non.
Est-ce que c'est vrai? Il a peut-être raison, Serge.
Il a partiellement raison, tout à fait. C'est que effectivement, la médecine traditionnelle occidentale s'est construite sur les pathologies aiguës qu'il faut guérir. Et effectivement, nous sommes moins forts dans les pathologies chroniques. Or, on a de plus en plus de pathologies chroniques aujourd'hui. Mais néanmoins, un médecin généraliste ou spécialiste aujourd'hui, même s'il est traditionnel, a une action de prévention très importante. Quand on demande aux patients de faire du sport, de manger différemment, c'est de la prévention. La médecine, c'est pas que des médicaments.
Yannick Schmitt, de ce point de vue-là, que vous disent vos patients chez vous lorsqu'ils, j'imagine, est-ce qu'ils vous posent la question d'ailleurs? Est-ce qu'il n'y aurait pas un traitement différent que vous pourriez me proposer? Est-ce qu'ils vous le disent, ça? Est-ce qu'ils vous le demandent ou pas?
Oui, c'est des demandes qui sont
très fréquentes,
quotidiennes.
Oui, ouais.
Effectivement, l'exemple typique, c'est la personne qui vient pour une insomnie. Elle aura certainement raison de demander autre chose qu'un médicament chimique de l'industrie pharmaceutique, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, la meilleure manière de faire, c'est d'observer le sommeil sur quelques jours, d'en rediscuter avec le patient, et avec les conseils d'hygiène, notamment du sommeil, on arrive à régler le problème assez facilement. La mauvaise manière de faire, c'est de prescrire un somnifère dont on n'arrivera jamais à se débarrasser après. Donc effectivement, pour rebondir un petit peu sur la réponse de mon collègue, je crois que le premier médicament, ça reste quand même le médecin. Et vous avez cité l'effet placebo. L'effet placebo, aujourd'hui, on sait qu'il fonctionne. On sait qu'il fonctionne avec le médecin généraliste, même s'il n'a rien prescrit. On sait même qu'il fonctionne quand on dit au patient qu'on est en train, effectivement, de lui proposer un effet placebo. Donc, c'est quand même formidable. Donc, si on part de ce principe-là, on peut très bien sortir avec des consultations sans prescription.
C'est fou, ça veut dire que si vous dites attendez, arrêtez-vous une seconde. Si vous dites à un patient, je vais vous donner quelque chose, mais c'est que placebo, il dira OK, c'est d'accord, et il ira mieux. C'est le placebo du placebo, dites donc.
Ah bah oui, il nous arrive effectivement de prescrire des médicaments placebo et on a l'obligation éthique de dire au patient que c'est un médicament placebo. Il le sait très bien, il l'a très bien compris, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, au contraire.
Tiens, j'ai ce mail qui nous vient de Nicole sur franceinter.fr qui dit « J'ai 64 ans, depuis que j'ai 20 ans, je prends de l'homéopathie. Je prenais des antibios avant car j'avais souvent des angines, des rhumes. L'homéopathie m'a permis de me soigner plus rapidement et elle nous cite par exemple une angine qui est liquidée en général entre 4 et 5 jours avec des antibios en une semaine. Ou autre chose sinon, à cause parfois de certains effets. Bruno Falissard, elle a raison Nicole, mais en même temps, une angine au fond, c'est 4 ou 5 jours si on prend rien aussi, non ou pas? Grosso modo.
Voilà, ça dépend des angines. Et c'est là que les choses sont un tout petit peu plus compliquées. C'est que, effectivement, il y a sûrement eu une certaine époque où on a prescrit trop d'antibiotiques pour les angines. Mais il faut voir, l'angine, ça a l'air un mot sympa, on a mal à la gorge, mais c'est pas bien grave. Mais il y a des maladies cardiaques qui sont dues à des formes d'angines particulières et vous serez incapable de faire le diagnostic et des gens mourraient à cause de ça. Et donc, il y a 20, 30 ans, quand les antibiotiques sont arrivés, on en a prescrit pour soigner toutes les angines. Et maintenant, il y a des résistances et donc on fait attention, on essaie de donner des antibiotiques que dans ces angines qui sont susceptibles d'être plus graves.
Est-ce qu'on a plus tendance à faire de l'automédication avec des produits type homéopathie ou pas, en fait? Est-ce que le danger n'est pas là? Vous le disiez, effectivement, j'ai une angine, je ne peux pas me méfier, je ne me méfie pas, je ne viens pas vous voir. Je prends des granules parce que d'habitude ça marche, mais j'ai quelque chose de plus grave.
C'est le danger et je crois que c'est justement parce qu'il faut en parler pour qu'on soit clair avec ce qu'on fait avec notre santé. Il y a des moments dans votre vie, vous n'allez pas bien et vous n'allez pas bien du tout. Quand vous avez une angine sévère, c'est pas juste que vous avez mal à la gorge, ça va vraiment pas bien. Et là, faut savoir se rendre compte qu'on est malade et qu'il faut aller consulter quelqu'un, un professionnel qui va avoir une position rationnelle par rapport à notre souffrance. Après, dans la vie, on a plein de moments où ça va mal, ça peut être un rhume, on n'a pas forcément besoin d'aller voir un médecin, on peut prendre quelque chose qu'on a l'habitude de prendre et qui nous fait du bien.
Allez, Jean-Pascal nous attend au 01 45 24 7000. Bonsoir Jean-Pascal.
Bonjour Fabienne, bonjour tout le monde.
Bonjour à vous, allez-y.
Alors moi, je prends l'exemple parce que j'ai regardé un peu précisément l'homéopathie. Bon, pour moi, je vais résumer, c'est une arnaque et je vais dire pourquoi. D'abord, on a alors l'effet placebo, on le connaît, hein, tout le monde le connaît. Mais enfin, moi, je peux fabriquer des produits placebo. Hein, je vends des grains de riz, ça va très bien. Donc, l'homéopathie n'a jamais démontré son efficacité mieux qu'un placebo. Deuxièmement, si l'efficacité n'est pas prouvée, il faut la sécurité sociale est en droit de ne pas rembourser. Et troisièmement, si l'effet de l'homéopathie était vraiment avéré, alors à ce moment-là, il faudrait faire des recherches parce que c'est absolument extraordinaire. Parce que des calculs très très simples, je l'ai fait, vous faites une dilution 15 CH. Vous avez une molécule dans 20 mètres cubes, et voilà. Donc, ça défie ce que l'on sait en science. Donc, si c'était vraiment efficace, il faudrait faire des recherches parce que c'est absolument formidable.
Merci beaucoup.
Ça serait absolument formidable.
Alors, Jean-Pascal, vos arguments, votre argumentaire, on le connaît, on l'a beaucoup entendu ces derniers temps. Bruno Falissard, alors c'est vrai, ça pour le coup, ça c'est une réalité. La démonstration que l'homéopathie soigne, elle n'a jamais été faite. Faudrait-il? La première question est celle-là, faudrait-il le faire réellement? A-t-on besoin, encore une fois, de quelque chose qui a une preuve qu'il guérit ou pas? Faudrait-il le faire? Faut-il pousser les analyses?
Alors, il y a deux choses. La première, c'est est-ce que dans une granule homéopathique plus de 15 CH, comme le dit l'auditeur, est-ce qu'il y a quelque chose? De mon point de vue, il n'y a rien. Donc on va dire c'est un placebo, donc c'est une arnaque. Et c'est là que c'est plus compliqué
voilà,
que ça.
Parce que pourquoi pas un placebo? C'est ce qu'on
pourquoi
disait
Pourquoi pas un placebo? Mais en plus, ce mot est dramatique, c'est qu'on considère que, quand un médecin discute avec un patient, à un moment donné, il dit, je pense que c'est pas grave et on va prendre un médicament qui est sûrement pas très efficace, mais dans notre relation, il va vous apporter quelque chose et la prescription elle-même peut apporter quelque chose. Et donc le patient va aller mieux. Et donc c'est en ce sens que l'homéopathie peut avoir une efficacité, pas forcément supérieure à un placebo, mais un placebo peut être efficace.
Alors là, ce dont on parle par ailleurs, c'est du remboursement. Tout le débat, il est là. En fait, tout le débat tourne autour du remboursement. L'idée, c'est pas de supprimer intégralement l'homéopathie. C'est de se demander effectivement dans quelle mesure il faut le rembourser.
Alors là, c'est une question complètement différente. C'est que une société décide des médicaments qui peuvent être remboursés. En Grande-Bretagne, quand un produit vous fait gagner une année de vie, on peut le rembourser dès qu'il coûte moins de 40 000 livres. Voilà. En France, on fait pas pareil. En principe, on rembourse un médicament quand il a une efficacité notable dans une maladie grave. En général, les produits homéopathiques ne répondent pas à cette propriété et donc en principe, il faudrait pas les rembourser.
Et vous dites quoi, monsieur Falissard? Est-ce qu'il faudrait assouplir un peu tout ça, sortir de cette espèce d'équation qui dit maladie grave, médicament, remboursement? Est-ce qu'on peut dire différemment?
Le jour où on aura beaucoup d'argent, je serai pour qu'on rembourse l'homéopathie. Aujourd'hui, on n'a plus d'argent pour embaucher des aides-soignantes dans les maisons de retraite ou dans les EHPAD pour changer nos personnes âgées. Il y a un jour, il faut savoir où on met l'argent. Et moi, je préfère le mettre dans le traitement du cancer, de la schizophrénie, dans le soin des personnes âgées ou des enfants, et peut-être pas dans l'homéopathie. Mais ça, c'est un point de vue de citoyen. C'est pas un point de vue de médecin.
Yannick Schmitt, c'est le débat du moment. Il tourne effectivement autour de ça. Il tourne autour de rembourser ou pas. Je sais que vous, par exemple, entre autres choses, vous avez été formé à l'hypnose. Il y a plein de médecins qui sont effectivement formés à des tas d'autres spécialités qui ne sont pas des spécialités de médecine pure et traditionnelle. Est-ce que cette idée de remboursement, elle vous pose souci ou pas?
Effectivement, ça c'est ce que disait mon collègue. On est là sur un plan qui est celui de la santé publique. Est-ce que le financeur, l'assurance maladie, rembourse ou pas un soin? Il y a beaucoup de soins qui mériteraient d'être remboursés, par exemple le soutien de psychologue, où on parlait de l'éducation physique tout à l'heure. L'homéopathie est actuellement remboursée. Ça a été un choix politique fort d'un président de la République arrivé au pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui c'est fondé sur des preuves scientifiques? Non. Est-ce qu'il faudrait que ça le soit? Je pense que la même règle doit s'appliquer à tous les médicaments qui sont remboursés.
Mais alors, j'allais vous poser la question, parce qu'on s'est mis à rembourser effectivement l'homéopathie, mais enfin on ne rembourse pas la naturopathie, l'héliopathie, la balnéothérapie, la phytothérapie, il n'est pas question de les mettre au banc de quoi que ce soit. Donc comment se fait-il à un moment quand même? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette espèce d'effet placebo, y compris auprès des politiques? On donne quelque chose à ingurgiter, c'est pas simplement une manipulation. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de particulier avec l'homéopathie? Parce que ces granules, c'est finalement un petit peu comme une sorte de médicament.
C'est un médicament, il n'y a aucune ambiguïté là-dedans. Administrativement, c'est un médicament. après la décision de remboursement, alors certaines mauvaises langues disent que c'est le fait que les laboratoires homéopathiques sont en grande partie français et que donc ça arrange un politique de le rembourser parce que les patients seront pas contre et l'industrie de l'homéopathie ne sera pas contre non plus. C'est possible. En tout cas, je pense que ça n'est plus rationnel de rembourser l'homéopathie alors que d'autres soins plus importants ne le sont pas. Juste une remarque, vous savez, quand on dénigre l'utilisation des placebos, il faut savoir qu'un médecin, le plus traditionnel qu'il soit, prescrit parfois des placebos sans le savoir. Quand vous avez un patient qui a un début d'arthrose du genou, et ça arrive à la moitié de la population française, on lui prescrit 500 mg de paracétamol tous les jours, eh bien ça n'a pas plus d'efficacité qu'un placebo. Or, tout le monde a une très bonne conscience en disant que c'est un vrai médicament qui va vraiment faire quelque chose.
Voilà, oui, à l'effet placebo, effectivement, c'est important de rappeler que, après tout, comme vous le disiez, effectivement, le placebo, parfois ça marche aussi pour les raisons que on vient d'expliquer. Bonsoir Tristan.
Bonsoir.
Et on vous écoute Tristan, allez-y.
Eh bien, moi, je voulais témoigner ce soir en saluant tout le monde, en vous remerciant pour ce que vous faites, c'est formidable. Je voulais témoigner du fait que depuis l'âge de 9 ans, j'ai été diagnostiqué épileptique. Alors, donc, il y a plein d'épilepsies différentes. Moi, c'est l'épilepsie juvénile du sommeil. Donc, beaucoup de crampes, douleurs musculaires. Depuis l'âge de 9 ans, épilepsie intense. Je suis allé rencontrer une neurologue avec ma maman lorsque j'étais petit, qui m'a prescrit de consommer tous les soirs deux gros cachets de Dépakine, parce que ce sont quand même des gros cachets. Déjà tout petit, je ne comprenais pas bien le fait qu'on me fasse avaler des petites pilules blanches, donc je les mettais à la poubelle en cachette. Et puis j'ai grandi, je suis devenu un grand garçon, je suis devenu adulte, je suis allé rencontrer la neurologue une fois que je suis devenu un grand garçon, qui m'a expliqué... Eh bien, tu sais, Tristan, pour l'épilepsie, en Europe, la médecine occidentale ne connaît pas grand-chose du cerveau. Eh bien, maintenant que tu es un grand garçon, je peux te dire, tu sais, il y a des plantes qui existent. Eh bien, en consommant des plantes, ça fera beaucoup de bien à ton corps. Ça va faire redescendre ton système nerveux, ton stress. Je travaillais dans la restauration, dans l'hôtellerie, des rythmes intenses à 12-15 heures par jour. Et je faisais régulièrement, on va dire, 4-5 crises d'épilepsie par semaine. Donc, pendant la journée, beaucoup de crampes, beaucoup de douleurs, de l'hyperactivité extrêmement intense. Il y a 10 ans, j'ai rencontré ma compagne, qui est végétarienne.
Ah, le voilà l'effet placebo.
Voilà, végétarienne, qui fait de la méditation, qui m'a appris à respirer, qui m'a appris à redescendre mon système nerveux, à m'apaiser, à me calmer. Et depuis 8 ans, je n'ai plus fait une crise d'épilepsie en mangeant sainement, en ayant un autre rythme de vie et en rencontrant des personnes de différents horizons. Ils m'ont expliqué, oui, c'est vrai que le travail sur le cerveau, le stress, tout ça, vous en Europe, vous vivez à des rythmes, des cadences abominables. En plus, avec une alimentation abominable, quand on voit dans les rayons des pots de cassoulet à moins de 2 euros le kilo.
En tout cas, ce que vous dites, Tristan, pardon de vous interrompre, ce que vous dites, c'est que vous ne prenez rien en termes de médicaments, mais le fait d'avoir changé votre alimentation, éventuellement aussi votre rythme de vie, fait que...
C'est la qualité de vie qui fait tout. Et après, c'est sûr que ça doit arranger beaucoup de monde. L'investissement n'est pas énorme de mettre dans les rayons des pots de cassoulet qui donnent le cancer du côlon, des maladies... cancer, cholestérol, varices, phlébite, Alzheimer, troubles cardiovasculaires et tout ça lié à l'alimentation. Mais tant qu'on refusera de le reconnaître, eh bien, c'est sûr que ça arrange beaucoup de monde de vendre des médicaments.
Tristan, merci beaucoup de votre appel. Bruno Falissard, j'ai envie de dire tant mieux pour Tristan. Si ça a marché pour lui, si c'est un rythme de vie, une alimentation, une vie qui va mieux, il a parlé de sa compagne au milieu, donc ça veut dire qu'on est bien dans sa peau aussi. Tant mieux si ça marche pour un garçon comme Tristan.
Un, tant mieux si ça marche pour lui, bravo. Deux, il faut faire de la recherche pour comprendre pourquoi ça a marché sur lui et chez quel patient ça pourrait marcher. Mais trois, malheureusement, il y a beaucoup de formes d'épilepsie graves qui ne pourront pas être traitées par des plantes, faut être honnête.
Tiens, je voudrais qu'on parle à Laurence, qui est infirmier anesthésiste. Bonsoir Laurence.
Voilà, c'est Laurence, c'est au masculin.
À Laurent. Je me disais aussi, parce qu'il y avait marqué Laurence infirmier, donc je me demandais où j'avais fait l'erreur, mais allez-y Laurent.
Bonsoir, messieurs, dames. Voilà, le témoignage que je voulais apporter, c'est que c'est vrai qu'on entend souvent sur l'homéopathie, il est dit qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui est faite comme quoi l'homéopathie serait plus efficace qu'un placebo. Moi, et je voulais apporter justement l'exemple de l'acupuncture. Et dans le cadre de mon métier, donc en tant qu'infirmier anesthésiste, j'ai eu l'occasion d'assister à des colloques qui montraient qu'il y a des études scientifiques précises qui ont été faites sur l'utilisation de l'acupuncture et en parallèle avec la morphine, mm-hmm, sur une pathologie bien précise, les coliques néphrétiques, qui sont donc des calculs soit au niveau des reins, soit en aval des reins, qui est une pathologie qui est extrêmement douloureuse. Mm-hmm. Et l'étude, les résultats de ces études démontraient que l'acupuncture était plus efficace que la morphine avec un temps plus court et avec une absence d'effets indésirables dus à la morphine, justement. Mmh. Alors c'est vrai que dans mon milieu en anesthésie, c'est encore peu utilisé. C'est en train de se développer dans certains hôpitaux, dans certains établissements, en salle de réveil par exemple. Mmh. Et la difficulté, elle est sur plusieurs points. C'est que déjà, il faut former les gens. Il faut malgré tout une volonté médicale, même une volonté, je dirais, sur un plan au niveau de, directorial. Mmh. Et il faut aussi, faut pas perdre de vue que quand même au niveau des lobbies, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
Laurent, on va revenir avec nos invités sur le lien entre acupuncture et morphine. Mais puisque je vous tiens et que vous êtes anesthésiste, moi j'ai entendu parler d'hypnose en anesthésie. Est-ce que réellement ça existe? Est-ce que ça se généralise et est-ce que c'est pour des types de patients particuliers?
Alors, l'hypnose est utilisée en anesthésie, elle est de plus en plus utilisée, elle est plus utilisée actuellement que l'acupuncture. En tout cas, pour des interventions, ça restera bien sûr des interventions, je dirais, assez bénignes. Hein.
On, mais c'est pas des opérations à cœur ouvert. On est d'accord.
Voilà, on est bien d'accord. En tout cas, moi, je l'ai vue. C'est vrai que elle n'est pas encore forcément très répandue, mais en tout cas, je l'ai vue à l'œuvre pour certaines interventions. Et je dirais pour le quel type de personne va être candidate, ben, je dirais des personnes qui sont réceptives à l'hypnose. Mmh. Déjà, et qui sont volontaires, je dirais, au préalable pour que cette technique soit utilisée. Alors, et là aussi, il faut des gens, bien sûr, qui soient formés dans la pratique de l'hypnose.
Bah c'est pour ça que je vous ai posé la question. Merci beaucoup, Laurent. Yannick Schmitt, vous êtes formé à ce genre de technique et finalement, il y va du couplage avec l'hypnose comme de celui de l'acupuncture et de la morphine, en fait. Il y a peut-être le chemin du milieu, c'est peut-être d'associer deux techniques, en fait, une très traditionnelle et une autre un peu plus parallèle, non, Yannick Schmitt?
Oui, certainement. Alors, je ne vais pas défendre l'hypnose en particulier, mais c'est vrai que moi, dans ma pratique quotidienne, j'utilise des techniques d'hypnose, mm-hmm, sans le dire à mes patients. C'est l'hypnose conversationnelle, c'est très efficace, notamment dans tout ce qui est antalgie. Lorsqu'on fait un vaccin à un enfant de 6 ans, mm-hmm, si on utilise une petite technique d'hypnose, mm-hmm, en un rien de temps, on a fait le vaccin, il s'est rendu compte de rien, et les parents regardent ça avec de grands yeux en se disant, bah tiens, le vaccin est déjà fait.
Faut expliquer aux gens.
Effectivement, ça marche bien.
Monsieur Schmitt, faut peut-être expliquer aux gens. Moi, je vais tout vous dire, je me suis hypnotisé pour arrêter de fumer, par exemple. Alors, ça n'a pas marché tout de suite, mais ça a marché après. Il ne s'agit pas d'endormir quelqu'un, on n'est pas comme à la télé, hein. Il ne s'agit pas d'endormir quelqu'un et de lui faire faire les pieds au mur quand on fait de l'hypnose thérapeutique. Hein.
Tout à fait, ça peut ressembler à une simple conversation avec entre deux adultes et ça n'a pas le côté spectaculaire, mmh, qu'on peut voir dans les zéniths actuellement. Et c'est pour ça que tout le monde est aujourd'hui réceptif à l'hypnose. Il n'y a pas des personnes qui sont réceptives et d'autres non. Il y en a juste qui sont plus disposées à monter sur scène que d'autres.
Hein. Bruno Falissard, hypnose et médicaments, mais aussi acupuncture et morphine. Encore une fois, pourquoi pas, au lieu d'opposer les deux, mêler les deux.
Oui, mais alors, cette discussion autour de l'acupuncture, elle est très intéressante, parce que là, on a des données. Mm-hmm. Il y a plus de 1000 études bien faites sur l'acupuncture, parce que derrière, il y a le gouvernement chinois, qui met beaucoup d'argent. Et donc, oui, l'acupuncture est efficace. Mais encore une fois, la plupart des études, la quasi-totalité, montrent que si vous piquez sur le méridien, vous savez, dans l'acupuncture, ouais, il y a des méridiens.
Ou à côté, c'est pareil.
Eh ben oui.
Ouais. J'ai lu ça moi aussi.
Et si vous piquez avec une aiguille, mais il y a des aiguilles, il y a des placebos d'aiguilles, c'est-à-dire l'acupuncteur appuie, rentre l'aiguille, mais en fait, il a l'impression, et le patient aussi, que l'aiguille rentre, mais en fait, elle rentre juste un tout petit peu et pas assez pour que ça marche en principe, eh bien, ça marche pareil. Mm-hmm. Et donc, voilà, et donc là, alors, il faut pas dire que ça marche pas, il faut pas dire que c'est un placebo, parce que à ce moment-là, on dénie ce que disait l'infirmier anesthésiste qu'on a eu au téléphone tout à l'heure, c'est dénier le fait que ça peut être utile à des patients. Mais il faut reconnaître que l'acupuncture ne marche pas parce qu'on pique sur des méridiens. La théorie qui sous-tend l'acupuncture, vraisemblablement, elle n'est pas supportée par l'expérience.
Ça veut dire qu'au fond, c'est la morphine qui marche dans ce que nous racontait Laurent, mais ça aide le patient de savoir qu'il s'est passé quelque chose d'autre, en fait.
C'est-à-dire que, moi je dirais plutôt, les acupuncteurs ont trouvé une façon d'engager la relation médecin-malade et d'avoir un médium qui est à partir d'une aiguille et qui fait que les gens y sont réceptifs et que les gens souffrent moins.
Bonsoir Julien.
Il faut comprendre pourquoi.
Absolument. Non, je vous en prie. Bonsoir Julien.
Bonsoir.
Allez-y, on vous écoute.
Merci de me donner la parole, merci pour toutes vos émissions. Moi, je voulais témoigner en tant que médecin généraliste.
Allez-y.
J'ai 38 ans, je fais partie de ces jeunes qui pensent pas que tout est résolvable nécessairement par du médicament. On nous a formés au placebo, on nous a formés au médicament. On peut nous former à peu près tout ce qu'on veut si on le souhaite. Je pense que le placebo, il est systématique dans une relation de médecin avec son malade. Mais ça commence pas par la rédaction d'une prescription de médicaments allopathiques nécessairement. Ça commence dès le départ quand on dit bonjour et quand on a envie de l'aider, quand on a envie de d'écouter la plainte.
Quand il y a le sentiment qu'on prend du temps pour l'entendre.
Absolument. Et je pense que derrière, que la prescription soit des conseils d'hygiène de vie alimentaire CF tristante alors qu'elle a changé de rythme de vie, que ça peut être l'homéopathie et beaucoup de placebo, puisqu'effectivement, dilué à 15 CH, c'est dilué de 10 puissance moins 30 une molécule, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout dedans. L'acupuncture pour aider un tel à fumer, d'arrêter de fumer, pardon. La médecine allopathique, jusqu'à preuve du contraire, il y a qu'elle qui résout les problèmes de cancer et d'hypertension artérielle, mais pour toutes les maladies que moi j'appellerais fonctionnelles, donc il n'y a pas un problème cardiaque, il n'y a pas une maladie cancéreuse, inflammatoire, infectieuse, et ben ces gens-là, ils se plaignent, ils ont mal au ventre, ils ont des cystites à répétition sans problème anatomique, et ces gens-là, la médecine allopathique n'a pas de réponse à leur donner. Des fois, c'est en faisant des massages après le boulot, faire de la sophrologie ou prendre des comprimés de 15 CH d'une substance théoriquement mortelle comme l'amanite phalloïde qui les soulage. Il faut l'écouter aussi, c'est une arme parmi tant d'autres, c'est une corde supplémentaire à l'arc. Il faut arrêter de croire, en tout cas, c'est mon opinion, que la médecine allopathique toute puissante, il n'y a qu'elle et rien qu'elle, et on ne jure que par, pour et via un bout de papier qui s'appelle une ordonnance qui fait la toute puissance du médecin. Des fois, c'est la belle-mère du copain d'en face qui prend des petites gélules, qui fait plus de miracles que le propre médecin avec toute sa puissance et ses 10 ans de médecine.
Merci beaucoup Julien. Yannick Schmitt, vous aussi médecin généraliste, c'est vrai que dans tous ces derniers témoignages qu'on entend et qui sont passionnants, tout tourne autour de la relation entre le médecin et malade. En fait, la clé et le vrai effet placebo, c'est vraiment celui-là. Et c'est vrai que quand c'est vous, médecin, qui nous dites aller faire du sport, allez savoir pourquoi, on va plus souvent à la salle de gym que si c'est notre copine de boulot qui nous dit va faire du sport. Vous avez ce pouvoir-là, vous les médecins, y compris de nous prescrire des choses aussi simples finalement.
Oui, c'est en partie vrai, sauf que le patient, il vient nous voir. Donc il vient quand même avec une demande qui est peut-être cachée ou qui n'est pas explicite. Et nous, on ne fait que la formuler ou que le dire explicitement. Donc effectivement, on a un pouvoir, mais moi, je parlerais plutôt de relations soignées-soignants parce qu'aujourd'hui, d'autres professionnels de santé ont les mêmes capacités à accompagner le patient dans un changement, à soulager un patient dans des douleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est effectivement dans la prise en charge du patient par son médecin traitant, mais plus largement du patient par l'équipe de soins qui va s'en occuper.
Julien, vous vouliez réintervenir, allez-y, je vous en prie.
Oui, tout à fait. Quelle que soit la stratégie thérapeutique qu'on met en œuvre, allopathie, homéopathie ou tout le reste, ou simplement, moi, ça m'arrive régulièrement de donner une feuille avec plein de conseils alimentaires pour des troubles X, Y ou Z, il n'y a qu'une seule et unique constante, et c'est la seule que le médecin doit continuer à toujours vouloir avoir, c'est l'adhésion du malade. Il n'ira pas faire du sport si vous lui conseillez, s'il n'a pas envie de faire du sport. Et ça, si le médecin que vous êtes qui ordonne de faire du sport, même à quelqu'un qui ne voudra pas, ma mère disait toujours, on peut emmener un âne à l'abreuvoir, il ne boira jamais. si le patient n'est pas d'accord, c'est pas possible. Un bêta-bloquant, ça améliore la santé cardiovasculaire, mais ça donne des troubles de l'érection. Donc si le monsieur de 60 ans il a des troubles de l'érection, il ne le prendra pas. Donc faut changer, c'est pas la peine d'insister. Ou trouver autre chose. Et ça, l'adhésion du malade, c'est plus que la relation, c'est lui le chef.
Absolument.
Et ça, le médecin, tant qu'il n'a pas compris qu'il était au service d'eux et en pleine négociation, et qu'il croit toujours, comme certains vieux médecins qui sont à la retraite en ce moment, là, c'est fini la pleine puissance de celui qui ordonne de guérir par cette méthode parce que c'est moi et que je sais et que vous, vous avez qu'à suivre.
Alors peut-être que d'ailleurs nos parents avaient confiance dans ce genre de médecine-là et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Heureusement, les patients comme les médecins à la fois. Bruno Falissard, je vous ai vu sourire. Vous n'êtes pas vieux médecin, vous, encore, par rapport à Julien. Il y a une question qui revient souvent. Je ne veux surtout pas vous piéger, monsieur Falissard, mais elle revient souvent, donc je vais vous la poser. Je suis vétérinaire et j'ai pu constater des réponses au traitement homéopathique là où l'allopathie a échoué. Donc il ne s'agit pas d'un effet placebo puisque l'animal prenait déjà évidemment des médicaments et que la discussion avec l'animal est autre chose. Qu'est-ce qu'on répond aux vétérinaires? Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Qu'il est tout à fait possible que la guérison passe par le maître. Et c'est ce qu'on voit, il y a une ostéopathie pour les animaux. Et en tout cas, moi de mon point de vue, l'hypothèse c'est que, vous savez, quand un animal va mal, c'est souvent en lien, il y a une résonance de sa souffrance avec celle que le maître ressent par empathie.
Et donc ça marche pareil s'il lui parle, je dis ça très sérieusement.
Mais oui, tout à fait. Parce que l'animal entend, le maître a une relation différente avec son animal et il est tout à fait possible que ça permette à l'animal d'aller mieux.
Vincent, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le dernier, Vincent, allez-y, on vous écoute.
Eh bien, écoutez, ce qui vient d'être dit précédemment va dans le sens de l'intervention que je voulais faire. Il y a une guérison par le maître. Alors, que ça passe par le maître qui vous donne des petites gélules ou que ça passe par autre chose, l'essentiel, c'est qu'on soit guéri. Moi, je voulais évoquer la question des barreurs de feu. Ces gens qui barrent le feu et qui traitent souvent les grands brûlés. Le centre hospitalier, le centre anticancéreux de Montpellier, conseille souvent aux patientes atteintes de cancer, traitées au niveau du cancer du sein par la radiothérapie, d'utiliser les barreurs de feu pour limiter les brûlures et pour les atténuer. Expliquez-moi comment ça marche, les barreurs de feu. Je ne le sais pas. Alors moi, mais c'est le sens de votre émission ce soir et je vous en remercie. Parce que nous n'avons pas eu des boutefeux, nous avons eu des hommes compréhensifs. Moi, je conseillerais à la science un peu d'humilité. Peut-être que des choses inexplicables et inexpliquées aujourd'hui le seront demain, après-demain, dans 100 ans. Il y a 200 ans, on n'expliquait pas les choses comme on les explique aujourd'hui. Donc, de grâce, un peu d'humilité pour cette magnifique science qui sauve tant de vies et dont on doit saluer les performances. Et puis, acceptons la réalité des choses. Moi, j'ai été... Il y a un médecin de Montpellier qui m'attend pour m'opérer d'un canal carpien depuis 25 ans. Je crois qu'il va prendre sa retraite, d'ailleurs. Eh bien, c'est le lycopodium en 200 cas qui m'a guéri. Et qui m'a guéri. Voilà. Donc, moi, je constate. Alors, est-ce que c'est mon médecin qui a eu un pouvoir et qui m'a guéri? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que le docteur Tessier m'attendent toujours pour m'opérer. Voilà.
Bah, dites-lui que vous avez changé de numéro, Vincent.
Et dernière petite chose.
Très vite.
Surtout, ne déremboursons pas, parce que ce qui n'est pas remboursé a peut-être moins de valeur. Et après tout, c'est pas les 2 euros du tube d'homéopathie qui dévastent les finances de la sécurité sociale.
Il y a du placebo. Merci beaucoup, Vincent. Ce sera une belle conclusion. Il y a du placebo dans le remboursement aussi, finalement. Juste en dernier mot, Bruno Falissard, c'est un mot que Vincent a prononcé, vous l'avez dit aussi, humilité, d'un côté comme de l'autre, en fait.
Absolument.
Voilà, c'est ce qui compte. Merci beaucoup. Merci à tous pour vos appels. Au téléphone sonne très nombreux, comme d'habitude. Merci à nos amis de Strasbourg d'avoir accueilli Yannick Schmitz dans leurs locaux. Et portez-vous bien.